Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, première partie, en mission. Avant de raconter un des plus effroyables épisodes de mon voyage en Extrême-Orient, il est peut-être intéressant que j'explique brièvement dans quelles conditions je fus amené à l'entreprendre, celle de l'histoire contemporaine. À ceux qui seraient tentés de s'étonner de l'anonymat que, en ce qui me concerne, j'ai tenu à garder jalousement au cours de ce véridique et douloureux récit, je dirais, peu importe mon nom. C'est le nom de quelqu'un qui causa beaucoup de mal aux autres et à lui-même, plus encore à lui-même qu'aux autres, et qui, après bien des secousses, pour être descendu un jour jusqu'au fond du désir humain, essaie de se refaire une âme dans la solitude et dans l'obscurité. Paix aux cendres de son péché. Il y a 12 ans, ne sachant plus que faire et condamné par une série de malchances à la dure nécessité de me pendre ou de m'aller jeter dans la Seine, je me présentais aux élections législatives, suprême ressource, en un département où d'ailleurs je ne connaissais personne et n'avais jamais mis les pieds. Il est vrai que ma candidature était officieusement soutenue par le cabinet qui, ne sachant non plus que faire de moi, trouvait ainsi un ingénieux et délicat moyen de se débarrasser une fois pour toutes de mes quotidiennes, de mes harcelantes sollicitations. À cette occasion, j'eus avec le ministre, qui était mon ami et mon ancien camarade de collège, une entrevue solennelle et familière tout ensemble. « Tu vois combien nous sommes gentils pour toi, » me dit ce puissant, ce généreux ami. « À peine nous t'avons retiré des griffes de la justice et nous avons eu du mal. Que nous allons faire de toi un député ?»« Oh, tu prends corde, mais, » dis-je d'un ton grincheux, « sans doute, mais tu as toutes les chances. Intelligent, séduisant de ta personne, prodigue, bon garçon quand tu le veux. Tu possèdes le don souverain de plaire. Les hommes à femmes, mon cher, sont toujours des hommes à foule. » Je réponds de toi, il s'agit de bien comprendre la situation, du reste elle est très simple. Et il me recommanda, « Oh, surtout pas de politique, hein, ne t'engage pas, ne t'emballe pas. Il y a dans la circonscription que je t'ai choisie une question qui domine toutes les autres, la betterave. Le reste ne compte pas, et regarde le préfet. Tu es un candidat purement agricole, en mieux que cela, exclusivement betteravier. Ah, ne l'oublie point. Quoi qu'il puisse arriver au cours de la lutte, maintiens-toi inébranlable sur cette plateforme excellente. Connais-tu un peu la betterave ?»« Ma foi, non, » répondis-je. « Je sais seulement, comme tout le monde, qu'on en tire du sucre et de l'alcool. »« Bravo, cela suffit !» applaudit le ministre, avec une rassurante et cordiale autorité. « Marche carrément sur cette donnée. » Promet des rendements fabuleux, des engrais chimiques extraordinaires et gratuits, des chemins de fer, des canaux, des routes, enfin pour la circulation de cet intéressant et patriotique légume. Annonce des dégrèvements d'impôts, des primes aux cultivateurs, des droits féroces sur les matières concurrentes, enfin, tout ce que tu voudras. Dans cet ordre de choses, tu as carte blanche et je t'aiderai. Mais ne te laisse pas entraîner à des polémiques personnelles ou générales qui pourraient te devenir dangereuses et avec ton élection compromettre le prestige de la République, car entre nous, mon vieux, je ne te reproche rien, je constate seulement tu as un passé plutôt gênant. Je n'étais pas en veine de rire. Vexé par cette réflexion qui me parut inutile et désobligeante, je répliquai vivement, regardant bien en face mon ami, qui put lire dans mes yeux ce que j'y avais accumulé de menaces nettes et froides. « Oh, tu pourrais dire plus justement, nous avons un passé. Il me semble que le tien, cher camarade, n'a rien à envier au mien. » « Oh, moi !» fit le ministre avec un air de détachement supérieur et de confortable insouciance. « Ce n'est pas la même chose. Moi, mon petit, je suis couvert par la France. Et revenant à mon élection, il ajouta: Donc, je me résume, hein, de la betterave, encore de la betterave, toujours de la betterave. Tel est ton programme, veille à n'en pas sortir. Puis il me remit discrètement quelques fonds et me souhaita bonne chance. Ce programme que m'avait tracé mon impuissant ami, je le suivis fidèlement et j'eus tort. Je ne fus pas élu. L'écrasante majorité qui échut à mon adversaire, je l'attribue, en dehors de certaines manœuvres déloyales, à ceci que ce diable d'homme était encore plus ignorant que moi et d'une canaillerie plus notoire. Constatons en passant qu'une canaillerie bien étalée, à l'époque où nous sommes, tient lieu de toutes les qualités, et que plus un homme est infâme, plus on est disposé à lui reconnaître de force intellectuelle et de valeur morale. Mon adversaire, qui est aujourd'hui une des illustrations les moins discutables de la politique, avait volé en maintes circonstances de sa vie, et sa supériorité lui venait de ce que, loin de s'en cacher, il s'en vantait avec le plus révoltant cynisme. J'ai volé, oui, j'ai volé, clamait-il par les rues des villages, sur les places publiques des villes, le long des routes, dans les champs. J'ai volé, j'ai volé, publiait-il en ses professions de foi, fiches murales et confidentielles circulaires. Et dans les cabarets, juchés sur les tonneaux, ses agents, tout barbouillés de vin et congestionnés d'alcool, répétaient, trompettaient ces mots magiques: Il a volé, il a volé. Émerveillées, les laborieuses populations des villes, non point que les vaillantes populations des campagnes, acclamaient cet homme hardi avec une frénésie qui chaque jour allait grandissant en raison directe de la frénésie de ses aveux. Alors comment pouvais-je lutter contre un tel rival, possédant de tels états de service? Moi qui n'avais encore sur la conscience, et les dissimulais pudiquement, que de menues peccadilles de jeunesse telles que vol domestique, rançon de maîtresse, tricherie au jeu, chantage, lettres anonymes, délation et faux. Oh, candeur des ignorantes juvénilités! Je faillis même un soir, dans une réunion publique, être assommé par des électeurs furieux de ce que, en présence des scandaleuses déclarations de mon adversaire, j'eusse revendiqué, avec la suprématie des betteraves, le droit à la vertu, à la morale, à la probité, et proclamé la nécessité de nettoyer la République des ordures individuelles qui la déshonoraient. On se rua sur moi, on me prit à la gorge. On se passa de point en point ma personne soulevée et ballottante comme un paquet. Par bonheur, je me tirai de cet accès d'éloquence avec seulement une fluxion à la joue, trois côtes meurtries et 6 dents cassées. C'est tout ce que je rapporterai de cette désastreuse aventure où m'avait si malencontreusement conduit la protection d'un ministre qui se disait mon ami. Oh, j'étais outré. J'avais d'autant plus le droit d'être outré que tout d'un coup, au plus fort de la bataille, le gouvernement m'abandonnait, me laissait sans soutien avec ma seule betterave comme amulette pour s'entendre et pour traiter avec mon adversaire. Le préfet, d'abord très humble, n'avait pas tardé à devenir très insolent. Puis il me refusait les renseignements utiles à mon élection. Enfin, il me fermait à peu près sa porte. Le ministre lui-même ne répondait plus à mes lettres, ne m'accordait rien de ce que je lui demandais, et les journaux, dévoués, dirigeaient contre moi de sourdes attaques, de pénibles allusions sous des prose polies et fleuries. On n'allait pas jusqu'à me combattre officiellement, mais il était clair pour tout le monde qu'on me lâchait. Ah, je crois bien que jamais tant de fiel n'entra dans l'âme d'un homme. De retour à Paris, fermement résolu à faire un éclat, au risque de tout perdre, J'exigeais des explications du ministre, que mon attitude rendit aussitôt accommodante et souple. Mon cher, me dit-il, je suis au regret de ce qui t'arrive. Parole, tu m'envoies tout ce qu'il y a de plus désolé, mais que pouvais-je? Je ne suis pas le seul dans le cabinet. Mais je ne connais que toi, interrompis-je violemment en faisant sauter une pile de dossiers qui se trouvait sur son bureau à portée de main. Les autres ne me regardent pas. Les autres, ce n'est pas mon affaire. Il n'y a que toi. Tu m'as trahi, c'est ignoble. Mais, sapristi, écoute-moi un peu, voyons, supplia le ministre. Et ne t'emporte pas comme ça avant de savoir. Je ne sais qu'une chose, et elle me suffit. Tu t'es payé ma tête. Eh bien, non, non. Ça ne se passera pas comme tu le crois. À mon tour, maintenant. Je marchais dans le bureau, proférant des menaces, distribuant des bourrades aux chaises. Ha ha! Tu t'es payé ma tête. Nous allons donc rire un peu. Le pays sera donc enfin ce que c'est qu'un ministre. Au risque de l'empoisonner, le pays, je vais donc lui montrer, lui ouvrir toutes grandes larmes d'un ministre. Imbécile, tu n'as donc pas compris que je te tiens, toi, ta fortune, tes secrets, ton portefeuille? Ah, mon passé te gêne. Il gêne ta pudeur et la pudeur de Marianne. Eh bien, attends. Demain, oui, demain, on saura tout. Oh, je suffoquais de colère. Le ministre essaya de me calmer, me prit par le bras, m'attira doucement vers le fauteuil que je venais de quitter en bourrasque. Mais tais-toi donc, me dit-il en donnant à sa voix des intonations supplicatrices. Écoute-moi, je t'en prie, assieds-toi, voyons. Diable d'homme qui ne veut rien entendre. Tiens, ben voici ce qui s'est passé. Et très vite, en phrases courtes, hachées, tremblantes, il débita. Nous ne connaissions pas ton concurrent. Il s'est révélé dans la lutte comme un homme très fort, enfin comme un véritable homme d'État. Tu sais combien est restreint le personnel ministrable. Bien que ce soit toujours les mêmes qui reviennent, nous avons besoin de temps en temps de montrer une figure nouvelle à la Chambre et au pays. Or, il n'y en a pas. En connais-tu, toi? Eh bien, nous avons pensé que ton concurrent pouvait être une de ces figures-là. Il a toutes les qualités qui conviennent à un ministre provisoire, à un ministre de crise. Enfin, comme il était achetable et livrable, séance tenante, comprends-tu? C'est fâcheux pour toi, je l'avoue, mais les intérêts du pays d'abord. Oh, ne dis donc pas de blagues. Nous ne sommes pas à la chambre ici. Il ne s'agit pas des intérêts du pays dont tu te moques, et moi aussi. Il s'agit de moi. Or, je suis grâce à toi sur le pavé. Hier soir, le caissier de mon tripot m'a refusé 100 sous insolemment. Mes créanciers, qui avaient compté sur un succès, furieux de mon échec, me pourchoissent comme un livre ivre. On va me vendre, et aujourd'hui, je n'ai même pas de quoi dîner. Et tu t'imagines bonnement que cela peut se passer ainsi? Tu es donc devenu bête, aussi bête qu'un membre de ta majorité? Le ministre souriait, il me tapota les joues familièrement et me dit: Bon, je suis tout disposé, mais tu ne me laisses pas parler. Je suis tout disposé à t'accorder une compensation. Une réparation. Oh, une réparation, soit complète. Complète. Reviens dans quelques jours, je serai sans doute à même de te l'offrir. En attendant, voici 100 louis. C'est tout ce qui me reste des fonds secrets. Et il ajouta gentiment, avec une gaieté cordiale: Une demi-douzaine de gaillards comme toi, et il n'y a plus de budget. Cette libéralité que je n'espérais pas si importante eut le pouvoir de calmer instantanément mes nerfs. J'empochais, en grognant encore toutefois, car je ne voulais pas me montrer désarmé ni satisfait, les deux billets que me tendait en souriant mon ami, et je me retirai dignement. Les 3 jours qui suivirent, je les passai dans les plus basses débauches. Qu'on me permette encore un retour en arrière. Peut-être n'est-il pas indifférent que je dise qui je suis et d'où je viens. L'ironie de ma destinée en sera mieux expliquée ainsi. Je suis né en province d'une famille de la petite bourgeoisie, de cette brave petite bourgeoisie, économe et vertueuse, dont on nous apprend dans les discours officiels qu'elle est la vraie France. Eh bien, je n'en suis pas plus fier pour cela. Mon père était marchand de grains. C'était un homme très rude, mal dégrossi, et qui s'entendait aux affaires merveilleusement. Il avait la réputation d'y être fort habile, et sa grande habileté consistait à mettre les gens dedans, comme il disait. Trompé sur la qualité de la marchandise et sur le poids, faire payer 2 francs ce qui lui coûtait 2 sous, et quand il pouvait, sans trop d'esclandre, le faire payer 2 fois, tels étaient ses principes. Il ne livrait jamais, par exemple, de l'avoine qu'il ne l'eût au préalable trempé d'eau. De la sorte, les grains gonflés rendaient le double au litre et au kilo, surtout quand ils étaient additionnés de menus gravier, opération que mon père pratiquait toujours en conscience. Il savait aussi répartir judicieusement dans les sacs les graines de niel et autres semences vénéneuses, rejetées par les vannages, et personne mieux que lui ne dissimulait les farines fermentées parmi les fraîches. Car il ne faut rien perdre dans le commerce, et tout y fait poids. Ma mère, plus âpre encore au mauvais gain, l'aidait de ses ingéniosités déprédatrices, et, raide, méfiante, tenait la caisse, comme on monte la garde devant l'ennemi. Républicain strict, patriote fougueux, il fournissait le régiment. Moraliste intolérant, honnête homme, enfin, au sens populaire de ce mot, mon père se montrait sans pitié, sans excuse, pour l'improbité des autres, principalement quand elle lui portait préjudice. Alors, il ne tarissait pas sur la nécessité de l'honneur et de la vertu. Une de ses grandes idées était que dans une démocratie bien comprise, on devait les rendre obligatoires, comme l'instruction, l'impôt ou le tirage au sort. Un jour, il s'aperçut qu'un charretier, depuis 15 ans à son service, le volait. Immédiatement, il le fit arrêter. À l'audience, le charretier se défendit comme il put. Mais il n'était jamais question chez monsieur que de mettre les gens dedans. Quand il avait joué un drôle de tour à un client, monsieur s'en vantait comme d'une bonne action. Alors le tout est de tirer de l'argent, disait-il, n'importe où, et comment on le tire? Vendre une vieille lapine pour une belle vache, voilà tout le secret du commerce. Eh bien, j'ai fait comme monsieur, avec ses clients, je l'ai mis dedans. Ce cynisme fut fort mal accueilli des juges. Ils condamnèrent le charretier à 2 ans de prison, non seulement pour avoir dérobé quelques kilogrammes de blé, mais surtout parce qu'il avait calomnié une des plus vieilles maisons de commerce de la région, une maison fondée en 1794 et dont l'antique ferme et proverbiale honorabilité embellissait la ville de père en fils. Le soir de ce jugement fameux, je me souviens que mon père avait réuni à sa table quelques amis, commerçants comme lui, et comme lui, pénétrés de ce principe inaugural que mettre les gens dedans, c'est l'âme même du commerce. Si l'on s'indigna de l'attitude provocatrice du charretier, vous devez le penser, on ne parla que de cela jusqu'à midi. Et parmi les clameurs, les aphorismes, les discussions et les petits verres d'eau-de-vie de mare, dont s'illustra cette soirée mémorable, j'ai retenu ce précepte qui fut pour ainsi dire la moralité de cette aventure en même temps que la synthèse de mon éducation. Prendre quelque chose à quelqu'un et le garder pour soi, ça, c'est du vol. Mais prendre quelque chose à quelqu'un et le repasser à un autre en échange d'autant d'argent que l'on peut, ça, c'est du commerce. Le vol est d'autant plus bête qu'il se contente d'un seul bénéfice, souvent dangereux, alors que le commerce en comporte deux, sans aléa. C'est dans cette atmosphère morale que je grandis et me développais, en quelque sorte tout seul, sans autre guide que l'exemple quotidien de mes parents. Dans le petit commerce, les enfants restent en général livrés à eux-mêmes. On n'a pas le temps de s'occuper de leur éducation. Ils s'élèvent comme ils peuvent, au gré de leur nature, et selon les influences pernicieuses de ce milieu généralement rabaissant et borné. Spontanément et sans qu'on m'y forçât, j'apportais ma part d'imitation ou d'imagination dans les tripotages familiaux. Dès l'âge de 10 ans, je n'eus d'autre conception de la vie que le vol, et je fus, oh, bien ingénument, je vous assure, convaincu que mettre les gens dedans, cela formait l'unique base de toutes les relations sociales. Le collège décida de la direction bizarre et tortueuse que je devais donner à mon existence, car c'est là que je connus celui qui, plus tard, devait devenir mon ami, le célèbre ministre Eugène Mortin. Fils de marchand de vin, dressé à la politique comme moi au commerce, par son père qui était le principal agent électoral de la région, le vice-président des comités grobettistes, le fondateur de ligues diverses, groupements de résistance et syndicats professionnels, Eugène recelait en lui dès l'enfance une âme de véritable homme d'État. Quoique boursier, il s'était tout de suite imposé à nous par une évidente supériorité dans l'effronterie et la délicatesse, et aussi mu par une manière de phraséologie, solennelle et vide, qui violentait nos enthousiasmes. En outre, il tenait de son père la manie profitable et conquérante de l'organisation. En quelques semaines, il eut vite fait de transformer la cour du collège en toutes sortes d'associations et de sous-associations, de comités et de sous-comités, dont il s'élisait à la fois le président, le secrétaire et le trésorier. Il y avait l'association des joueurs de ballon, de toupies, de saute-mouton et de marche, le comité de la barre fixe, la ligue du trapèze, le syndicat de la course à pieds joints, etc. Chacun des membres de ces diverses associations était tenu de verser à la caisse centrale, c'est-à-dire dans les poches de notre camarade, une cotisation mensuelle de 5 sous, laquelle, entre autres avantages, impliquait un abonnement au journal trimestriel que rédigeait Eugène Mortin pour la propagande des idées et la défense des intérêts de ces nombreux groupements « autonomes et solidaires », proclamait-il. De mauvais instincts qui nous étaient communs et des appétits pareils nous rapprochèrent aussitôt, lui et moi, et firent de notre étroite entente une exploitation âpre et continue de nos camarades, fiers d'être syndiqués. Je me rendis bien vite compte que je n'étais pas le plus fort dans cette complicité. Mais en raison même de cette constatation, je ne m'en cramponnais que plus solidement à la fortune de cet ambitieux compagnon. À défaut d'un partage égal, j'étais toujours assuré de ramasser quelques miettes. Elles me suffisaient alors. Hélas, je n'ai jamais eu que les miettes des gâteaux que dévora mon ami. Je retrouvai Eugène plus tard dans une circonstance difficile et douloureuse de ma vie. À force de mettre les gens dedans, mon père finit par y être mis lui-même, et non point au figuré comme il l'entendait de ses clients. Une fourniture malheureuse et qui, paraît-il, empoisonna toute une caserne, fut l'occasion de cette déplorable aventure que couronna la ruine totale de notre maison, fondée en 1794. Mon père aurait peut-être survécu à son déshonneur, car il connaissait les indulgences infinies de son époque, mais il ne put survivre à la ruine. Une attaque d'apoplexie l'emporta un beau soir. Il mourut, nous laissant ma mère et moi sans ressources. Ne pouvant plus compter sur lui, je fus bien obligé de me débrouiller moi-même, et m'arrachant aux lamentations maternelles, je courus à Paris où Eugène Mortin m'accueillit le mieux du monde. Celui-ci s'élevait peu à peu. Grâce à des protections parlementaires habilement exploitées, à la souplesse de sa nature, à son manque absolu de scrupules, il commençait à faire parler de lui avec faveur dans la presse, la politique et la finance. Tout de suite, il m'empoigna de sales besognes et je ne tardais pas, moi aussi, en vivant constamment à son ombre, à gagner un peu de sa notoriété dont je ne suis pas profité comme j'aurais dû le faire. Mais la persévérance dans le mal est ce qui m'a le plus manqué. Non que j'éprouve de tardifs scrupules de conscience, des remords, des désirs passagers d'honnêteté. C'est en moi une fantaisie diabolique, une talonnante et inexplicable perversité qui me force tout d'un coup, sans raison apparente, à délaisser les affaires les mieux conduites, à desserrer mes doigts de dessus les gorges les plus âprement étreintes. Avec des qualités pratiques de premier ordre, un sens très aigu de la vie, une audace à concevoir même l'impossible, une promptitude exceptionnelle même à le réaliser, je n'ai pas la ténacité nécessaire à l'homme d'action. Peut-être, sous le gredin que je suis, y a-t-il un poète dévoyé, peut-être un mystificateur qui s'amuse à se mystifier soi-même. Pourtant, en prévision de l'avenir et sentant qu'il arriverait fatalement un jour où mon ami Eugène voudrait se débarrasser de moi, qui lui représenterait sans cesse un passé gênant, j'eus l'adresse de le compromettre dans des histoires fâcheuses et la prévoyance d'en garder par-devers moi les preuves indéniables. Sous peine d'une chute, Eugène devait me traiter perpétuellement à sa suite comme un boulet. En attendant les honneurs suprêmes où le poussa le flux bourbeux de la politique, voici, entre autres choses honorables, quelles étaient la qualité de ses intrigues et le choix de ses préoccupations. Eugène avait officiellement une maîtresse. Elle s'appelait alors la comtesse Borska. Pas très jeune, mais encore jolie et désirable, tantôt polonaise, tantôt russe et souvent autrichienne, elle passait naturellement pour une espionne allemande. Aussi son salon était-il fréquenté de nos plus illustres hommes d'État. On y faisait beaucoup de politique et l'on y commençait avec beaucoup de flirts, beaucoup d'affaires considérables et louches. Parmi les hôtes les plus assidus de ce salon se remarquait un financier levantin, le baron K, personnage silencieux, à la figure d'argent blafard, aux yeux morts, et qui révolutionnait la bourse par ses opérations formidables. On savait, du moins on se disait, que derrière ce masque impénétrable et muet agissait un des plus puissants empires de l'Europe. Pure supposition romanesque, sans doute, car dans ces milieux corrompus, on ne sait jamais ce qu'il faut le plus admirer de leur corruption ou de leur jobardise. Quoi qu'il en soit, la comtesse Borska et mon ami Eugène Mortin souhaitaient vivement de se mettre dans le jeu du mystérieux baron, d'autant plus vivement que celui-ci opposait à des avarices discrètes mais précises une non moins discrète et précise froideur. Je crois même que cette froideur avait été jusqu'à la malice d'un conseil de quoi il était résulté pour nos amis une liquidation désastreuse. Alors ils imaginèrent de lancer sur le banquier récalcitrant une très jolie jeune femme, amie intime de la maison, et de me lancer en même temps sur cette très jolie jeune femme qui, travaillée par eux, était toute disposée à nous accueillir favorablement. Le banquier pour le sérieux et moi pour l'agrément. Leur calcul était simple, et je l'avais compris du premier coup. M'introduire dans la place, et là, moi par la femme, eux par moi, devenir les maîtres des secrets du baron, échappés au moment de tendre oubli. C'était ce qu'on pouvait appeler de la politique de concentration. Hélas, le démon de la perversité qui vient me visiter à la minute décisive où je dois agir, voulut qu'il en fût autrement et que ce beau projet avortât sans élégance. Au dîner qui devait sceller cette bien parisienne union, je me montrais envers la jeune femme d'une telle goujaterie que, tout en larmes honteuses et furieuses, elle quitta scandaleusement le salon et rentra chez elle, veuve de nos deux amours. La petite fête fut fort abrégée. Eugène me ramena en voiture. Nous descendîmes les Champs-Élysées dans un silence tragique. « Où veux-tu que je te dépose ?» me dit le grand homme, comme nous tournions l'angle de la rue Royale. « Au tripot, sur le boulevard, » répondis-je avec un ricanement. « J'ai hâte de respirer un peu d'air pur dans une société de braves gens. » Et tout à coup, d'un geste découragé, mon ami me tapota les genoux et, oh, je reverrai toute ma vie, l'expression sinistre de sa bouche et son regard de haine, il soupira. « Allons, allons, on ne fera jamais rien de toi !» Il avait raison. Cette fois-là, je ne pus pas l'accuser que ce fût de sa faute. Eugène Mortain appartenait à cette école de politiciens que, sous le nom fameux d'opportuniste, Gambetta lança comme une bande de cardassiers affamés sur la France. Il n'ambitionnait le pouvoir que pour les jouissances matérielles qu'il procure et l'argent que des habiles comme lui savent puiser aux sources de boue. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je fais au seul Gambetta l'historique honneur d'avoir combiné et déchaîné cette morne curée qui dure encore en dépit de tous les Panamas. Certes, Gambetta aimait la corruption. Il y avait dans ce démocrate tonitruant un voluptueux, ou plutôt un dilettante de la volupté, qui se délectait à l'odeur de la pourriture humaine. Mais il faut le dire à sa décharge et à leur gloire, les amis dont il s'entourait, que le hasard plus encore qu'une sélection raisonnée attacha à sa courte fortune, étaient bien de force à s'élancer eux-mêmes et d'eux-mêmes sur la proie éternelle où déjà tant et tant de mâchoires avaient croché leurs dents furieuses. Avant d'arriver à la chambre, Eugène Mortain avait passé par tous les métiers, même les plus bas, par les dessous, même les plus ténébreux, du journalisme. On ne choisit pas toujours ses débuts, on les prend où ils se trouvent. Ardente et prompte et pourtant réfléchie fut son initiation à la vie parisienne, j'entends cette vie qui va des bureaux de rédaction au Parlement en passant par la préfecture de police. Dévoré de besoins immédiats et d'appétits ruineux, il ne faisait pas alors un chantage important ou une malpropre affaire que notre brave Eugène en fut en quelque sorte l'âme mystérieuse et violente. Il avait eu ce coup de génie de syndiquer une grande partie de la presse pour mener à bien ses vastes opérations. Je connais de lui en ce genre décrié des combinaisons qui sont le pur chef-d'œuvre et qui révèlent dans ce petit provincial vidéo aussi une psychologie étonnante et une organisation admirable des mauvais instincts du déclassé. Mais il avait la modestie de ne se point vanter de la beauté de ses coups, et l'art précieux, en se servant des autres, de ne jamais donner de sa personne aux heures du danger. Avec une constante habileté et une science parfaite de son terrain de manœuvre, il sut toujours éviter, en les tournant, les flaques fétides et bourbeuses de la police correctionnelle, où tant d'autres s'enlisèrent si maladroitement. Il est vrai que mon aide, au soi dit sans fatuité, ne lui fut pas inutile en bien des circonstances. C'était du reste un charmant garçon, oui, en vérité, un charmant garçon. On ne pouvait lui reprocher que des gaucheries dans le maintien, persistant vertige de son éducation de province, et des détails vulgaires dans sa trop récente élégance qui s'affichait mal à propos. Mais tout cela n'était qu'une apparence dissimulant mieux aux observateurs insuffisants tout ce que son esprit avait de ressources subtiles, de flair pénétrant, de souplesse retorse, tout ce que son âme contenait de ténacité âpre et terrible. Pour surprendre son âme, il eût fallu voir, comme je l'ai vu hélas combien de fois, les deux plis qui, à de certaines minutes, en se débandant, laissaient tomber les deux coins de ses lèvres et donnaient à sa bouche une expression épouvantable. Oh oui, c'était un charmant garçon. Par des duels appropriés, il fit taire la malveillance qui va chuchotant autour des personnalités nouvelles, et sa naturelle gaieté, son cynisme bon enfant, contre volontiers d'aimables paradoxes, non moins que ses amours lucratives et ratentissantes, achevèrent de lui conquérir une réputation discutable, mais suffisante à un futur homme du gouvernement qui en verra bien d'autres. Il avait aussi cette faculté merveilleuse de pouvoir, 5 heures durant et sur n'importe quel sujet, parler sans jamais exprimer une idée. Son intarissable éloquence déversait, sans un arrêt, sans une fatigue, la lente, la monotone, la suicidante pluie du vocabulaire politique, aussi bien sur les questions de marine que sur les réformes scolaires, sur les finances que sur les beaux-arts, sur l'agriculture que sur la religion. Les journalistes parlementaires reconnaissaient en lui leur incompétence universelle, et miraient leur jardin écrit dans son charabia parlé. Serviable, quand cela ne lui coûtait rien, généreux, prodigue même, quand cela devait lui rapporter beaucoup, arrogant et servile, selon les événements et les hommes, sceptique sans élégance, corrompu sans raffinement, enthousiaste sans spontanéité, spirituel sans imprévu, il était sympathique à tout le monde. Aussi son élévation rapide ne surprit, n'indigna personne. Elle fut au contraire accueillie avec faveur des différentes parties politiques, car Eugène ne passait pas pour un sectaire farouche, ne décourageait aucune espérance, aucune ambition, et l'on n'ignorait pas que, l'occasion venue, il était possible de s'entendre avec lui. Le tout était d'y mettre le prix. Tel était l'homme, tel le charmant garçon en qui reposaient mes derniers espoirs et qui tenait réellement ma vie et ma mort entre ses mains. On remarquera que dans ce croquis à peine esquissé de mon ami, je me suis modestement effacé, quoique j'ai collaboré puissamment et à part des moyens souvent curieux à sa fortune. Oh, j'aurais bien des histoires à raconter qui ne sont pas, on peut le croire, les plus édifiantes. À quoi bon une confession complète, puisque toutes mes turpitudes, on les devine sans que j'aie à les étaler davantage. Et puis mon rôle auprès de ce hardi et prudent coquin fut toujours, oh, je ne dis pas insignifiant, non, mais ni méritoire, vous me ririez au nez, mais il demeura à peu près secret. Qu'on me permette de garder cette ombre à peine discrète dont il m'a plu envelopper ces années de lutte sinistre et de ténébreuse machination. Eugène ne m'avouait pas. Et moi-même, par un reste de pudeur assez bizarre, j'éprouvais parfois une invincible répugnance à cette idée que je pouvais passer pour son homme de paille. D'ailleurs, il m'arriva souvent des mois entiers de le perdre de vue, de le lâcher, comme on dit, trouvant dans les tripots, à la bourse, dans les cabinets de toilette des filles galantes, des ressources que j'étais las de demander à la politique et dont la recherche convenait mieux à mes goûts pour la paresse et pour l'imprévu. Quelquefois, pris de soudaine poésie, j'allais me cacher en un coin perdu de la campagne, et en face de la nature, j'aspirais à des puretés, à des silences, à des reconquêtes morales qui, hélas, ne duraient guère. Et je revenais à Eugène aux heures des crises difficiles. Il ne m'accueillait pas toujours avec la cordialité que j'exigeais de lui. Il était visible qu'il eût bien voulu se débarrasser de moi, mais d'un coup de caleçon sec et dur, je le rappelais à la vérité de notre mutuelle situation. Un jour, je vis distinctement luire dans ses yeux une flamme de meurtre. Bon, je ne m'inquiétais pas, et d'un geste lourd, lui mettant la main à l'épaule, comme un gendarme fait d'un voleur, je lui dis narquoisement: Et puis après, à quoi cela t'avancerait-il? Mon cadavre lui-même t'accusera. Sois donc pas bête. Je t'ai laissé arriver où tu as voulu. Jamais je ne t'ai contrecarré dans tes ambitions. Au contraire, j'ai travaillé pour toi, comme j'ai pu, loyalement. Est-ce vrai? Crois-tu donc que ce soit gai pour moi de nous voir, toi en haut, à te pavaner dans la lumière, et moi en bas, à patauger stupidement dans la crotte? Et pourtant, d'une chiquenaude, de cette merveilleuse fortune, si laborieusement édifiée par nous deux. Oh, par nous deux, siffla Angèle. Oui, par nous deux, canaille, répétai-je, exaspéré de cette rectification inopportune. Oui, d'une chiquenaude, d'un souffle, tu le sais, je puis la jeter bas, cette merveilleuse fortune. Je n'ai qu'un mot à dire, gredin, pour te précipiter du pouvoir au bagne, faire du ministre que tu es, oh, si ironiquement, le galérien que tu devrais être, s'il y avait encore une justice, et si je n'étais pas le dernier des lâches, eh bien, ce geste, je ne le fais pas. Ce mot, je ne le prononce pas. Je te laisse recevoir l'admiration des hommes et l'estime des cours étrangères, parce que, vois-tu, je trouve ça prodigieusement comique. Seulement, je veux ma part, tu entends, ma part. Et qu'est-ce que je te demande? Mais c'est idiot ce que je te demande, rien, des miettes, alors que je pourrais tout exiger, tout, tout, tout. Ah, je t'en prie, ne mérite pas davantage. Ne me pousse pas à bout plus longtemps. Ne m'oblige pas à faire des drames burlesques. Car le jour où j'en aurai assez de la vie, assez de la boue, de cette boue, ta boue, dont je sens toujours sur moi l'intolérable odeur, eh bien, ce jour-là, son Excellence Eugène Mortin ne rira pas, mon vieux, ça je te le jure. Alors Eugène, avec un sourire gêné, tandis que les plis de ses lèvres retombantes donnaient à toute sa physionomie une double expression de peur ignoble et de crime impuissant, me dit: Mais tu es fou de me raconter tout cela, et à propos de quoi? T'ai-je refusé quelque chose, espèce de soubrelet? Et gaiement, multipliant des gestes et des grimaces qui m'étourdissaient, il ajouta comiquement: Mais tu la crois? Ah, oh, oui, vraiment, c'était un charmant garçon. Quelques jours après la scène de violence qui suivit mon si lamentable échec, je rencontrai Eugène dans une maison amie, chez cette bonne Madame G, où nous avions été priés à dîner tous les deux. Notre poignée de main fut cordiale. On eût dit que rien de fâcheux ne s'était passé entre nous. « On ne te voit plus !» me reprocha-t-il sur ce ton d'indifférente amitié qui, chez lui, n'était que la politesse de la haine. « Étais-tu donc malade ?»« Mais non, en voyage, vers l'oubli, simplement. » « À propos, es-tu plus sage? Je voudrais bien causer avec toi 5 minutes, après le dîner, n'est-ce pas ?»« Tu as donc du nouveau ?» demandai-je avec un sourire fielleux, par lequel il put voir que je ne me laisserais pas expédier comme une affaire sans importance. « Moi, futur, non, rien, un projet en l'air, enfin, il faut voir. » J'avais sur les lèvres une impertinence toute prête, lorsque Madame G., énorme paquet de fleurs roulantes, de plumes dansantes, de dentelles déferlantes, vint interrompre ce commencement de conversation. Et, soupirant, « Oh, mon cher ministre, quand donc nous débarrasserez-vous de ces affreux socialistes ?» Elle entraîna Eugène vers un groupe de jeunes femmes qui, à la manière dont elles étaient rangées dans un coin du salon, me firent l'effet d'être là en location, comme au café-concert, ces nocturnes créatures qui meublent de leur décolletage excessif et de leur toilette d'emprunt l'apparat en trompe-l'œil des décors. Madame G. avait la réputation de jouer un rôle important dans la société et dans l'État. Parmi les innombrables comédies de la vie parisienne, l'influence qu'on lui attribuait n'était pas une des moins comiques. Les petits historiographes des menus faits de ce temps racontaient sérieusement, en établissant de brillants parallèles dans le passé, que son salon était le point de départ et la consécration des fortunes politiques et des renommées littéraires, par conséquent le rendez-vous de toutes les jeunes ambitions et aussi de toutes les vieilles. Allez en croire, c'est là que se fabriquait l'histoire contemporaine, que se tramait la chute ou l'avènement des cabinets, que se négociaient parmi de géniales intrigues et de délicieuses causeries, car c'était un salon où l'on cause, aussi bien les alliances extérieures que les élections académiques. M. Sadi Carnot lui-même, qui régnait alors sur les cœurs français, était tenu, disait-on, à d'habiles ménagements envers cette puissance redoutable, et pour en conserver les bonnes grâces, il lui envoyait galamment, à défaut d'un sourire, les plus belles fleurs des jardins de l'Élysée et des serres de la ville. D'avoir connu autant de ça ou de leur jeunesse, Madame G. n'était pas très fixée sur ce point de chronologie, messieurs Thiers et messieurs Guizot, Cavour et le vieux Metternich, cette antique personne gardait un prestige dont la République aimait à se parer comme d'une traditionnelle élégance, et son salon bénéficiait de l'éclat posthume que ses noms illustres à tout propos invoqués rappelaient aux réalités diminuées du présent. On entrait d'ailleurs dans ce salon choisi comme à la foire. Jamais je n'ai vu, moi qui en ai tant vu, plus étrange mêlée sociale et plus ridicule mascarade mondaine. Déclassés de la politique, du journalisme, du cosmopolitisme, des cercles du monde, des théâtres et les femmes à l'avenant, elle accueillait tout et tout y faisait nombre. Personne n'était dupe de cette mystification, mais chacun se trouvait intéressé afin de s'exalter soi-même, d'exalter un milieu notoirement ignominieux où beaucoup d'entre nous tiraient non seulement des ressources peu avouables, mais encore leur unique raison d'être dans la vie. Du reste, j'ai l'idée que la plupart des salons, si célèbres autrefois, où venaient communiquer sous les espèces les plus diverses les appétits errants de la politique et les vanités sans emploi de la littérature, devaient assez fidèlement ressembler à celui-là. Et il ne m'est pas prouvé non plus que celui-là se différencia essentiellement des autres, dont on nous vante à tout propos, en lyriques enthousiasmes, l'exquise tenue morale et l'élégante difficulté d'accès. La vérité est que Madame G., débarrassée du grossissement des réclames et de la poésie des légendes, réduite au strict caractère de son individualité mondaine, n'était qu'une très vieille dame d'esprit vulgaire, d'éducation négligée, extrêmement vicieuse par surcroît, et qui, ne pouvant plus cultiver la fleur du vice en son propre jardin, la cultivait en celui des autres avec une impudeur tranquille dont on ne savait pas ce qu'il convenait le mieux d'admirer, ou l'effronterie ou l'inconscience. Elle remplaçait l'amour professionnel auquel elle avait dû renoncer par la manie de faire des unions et des désunions extra-conjugales, dont c'était sa joie, son péché, de les suivre, de les diriger, de les protéger, de les couver, et de réchauffer ainsi son vieux cœur ratatiné au frôlement de leurs ardeurs défendues. On était toujours sûr de trouver chez elle cette grande politique avec la bénédiction de M. Thiers, de M. Guizot, de Cavour et du vieux Metternich, des âmes sœurs, des adultères tout près, des désirs en appareillage, des amours de toutes sortes, frais équipés pour la source, l'heure ou le mois, et précieuses ressources dans les cas de la rupture sentimentale et des soirées de désœuvrement. Pourquoi, ce soir-là, précisément, eus-je l'idée d'aller chez Madame G. Je le sais car j'étais fort mélancolique et nullement d'humeur à me divertir. Ma colère contre Eugène était bien calmée, momentanément du moins. Une immense fatigue, un immense dégoût la remplaçait, dégoût de moi-même, des autres, de tout le monde. Depuis le matin, j'avais sérieusement réfléchi à ma situation, et malgré les promesses du ministre, dont j'étais décidé d'ailleurs à ne pas lui donner une facile quittance, je n'y voyais point une convenable issue. Je comprenais qu'il était bien difficile à mon ami de me procurer une position officielle, stable, quelque chose d'honorablement parasitaire, d'administrativement rémunérateur, par quoi il m'eût été permis de finir en paix, vieillard respectable, fonctionnaire sinécuriste, mes jours. D'abord, cette position, il est probable que je l'eusse aussitôt gaspillée. Ensuite, de toutes parts, au nom de la moralité publique et de la bienséance républicaine, les protestations concurrentes se fussent élevées, auxquelles le ministre interpellé n'aurait su que répondre. Tout ce qu'il pouvait m'offrir, c'était par des expédients transitoires et misérables, par de pauvres prestidigitations budgétaires, reculer l'heure inévitable de ma chute. Et puis je ne pouvais même pas compter éternellement sur ce minimum de faveur et de protection, car Eugène ne pouvait pas lui non plus compter sur l'éternelle bêtise du public. Bien des dangers menaçaient alors le cabinet, et bien des scandales auxquels, çà et là, quelques journaux mécontents de leur part font secret, faisaient des allusions de plus en plus directes, empoisonnaient la sécurité personnelle de mon protecteur. Eugène ne se maintenait au pouvoir que par des diversions agressives contre les partis impopulaires ou vaincus, et aussi à coups d'argent, que je le soupçonnais alors, comme cela fut démontré plus tard, de recevoir de l'étranger en échange chaque fois d'une livre de chair de la patrie. Travailler à la chute de mon camarade, m'insinuer adroitement auprès d'un leader ministériel possible, reconquérir auprès de ce nouveau collaborateur une sorte de virginité sociale, j'y avais bien songé. Tout m'y poussait, ma nature, mon intérêt, et aussi le plaisir si âprement savoureux de la vengeance. Mais, en plus des incertitudes et des hasards dont s'accompagnait cette combinaison, je ne me sentais pas le courage d'une autre expérience, ni de recommencer de pareilles manœuvres. J'avais brûlé ma jeunesse par les deux bouts, et j'étais las de ces aventures périlleuses et précaires qui m'avaient mené où ? J'éprouvais de la fatigue cérébrale, de l'ankylose aux jointures de mon activité. Toutes mes facultés diminuaient, en pleine force, déprimées par la neurasthénie. Ah, comme je regrettais de n'avoir pas suivi les droits chemins de la vie. Sincèrement, à cette heure, je ne souhaitais plus que les joies médiocres de la régularité bourgeoise. Et je ne voulais plus, et je ne pouvais plus supporter ces soubresauts de fortune, ces alternatives de misère qui ne m'avaient pas laissé une minute de répit et faisaient de mon existence une perpétuelle et torturante anxiété. Alors qu'allais-je donc devenir? L'avenir m'apparaissait plus triste et plus désespérant que les crépuscules d'hiver qui tombent sur les chambres des malades. Et tout à coup, après le dîner, quelle nouvelle infamie l'infâme ministre me proposerait-il? Dans quelle boue plus profonde, étant dans le revient pas, voudrait-il m'enfoncer et me faire disparaître à jamais? Je le cherchais du regard parmi la cohue. Il papillonnait auprès des femmes. Rien sur son crâne ni sur ses épaules ne marquait qu'il portât le lourd fardeau de ses crimes. Il était insouciant et gai. Et de le voir ainsi, ma fureur contre lui s'accrut du sentiment de la double impuissance où nous étions tous les deux, lui de me sauver de la honte et moi de l'y précipiter. Ah oui, de l'y précipiter! Accablé par ces multiples et lancinantes préoccupations, il n'était donc pas étonnant que j'eusse perdu ma verve et que les belles créatures étalées et choisies par Madame G pour le plaisir de ses invités ne me fussent de rien. Durant le dîner, je me montrais parfaitement désagréable et c'est à peine si j'adressais la parole à mes voisines dont les belles gorges resplendissaient parmi les pierreries et les fleurs. On crut que mon insuccès électoral était la cause de ces noires dispositions de mon humeur, ordinairement joyeuse et galante. Mais du ressort, me disait-on, vous êtes jeune, que diable! Ah, il faut de l'estomac dans la carrière politique. Ce sera pour la prochaine fois. À ces phrases de consolation banale, aux sourires engageants, aux gorges offertes, je répondais obstinément: Oh non, non, ne me parlez plus de la politique, c'est ignoble. Ne me parlez plus du suffrage universel, c'est idiot, non, je ne veux plus. Je ne veux plus en entendre parler. Et Madame G, fleurs, plumes et dentelles, subitement soulevées autour de moi en vagues multicolores et parfumées, me soufflait dans l'oreille avec des pâmoisons maniérées et des coquetteries humides de vieilles proxénètes. Il n'y a que l'amour, voyez-vous, il n'y a jamais que l'amour. Essayez de l'amour. Attendez ce soir, justement, il y a ici une jeune Roumaine, passionnée, et poète, mon cher et comtesse. Je suis sûr qu'elle est folle de vous. D'abord, toutes les femmes sont folles de vous. Je vais vous présenter. J'esquivais l'occasion si brutalement amenée, et ce fut dans un silence maussade, énervé, que je persistais à attendre la fin de cette interminable soirée. Accaparé de tous côtés, Eugène ne put me joindre que fort tard. Nous profitâmes de ce qu'une chanteuse célèbre absorbait un moment l'attention générale pour nous réfugier dans une sorte de petit fumoir qu'éclairait de sa lueur discrète une lampe à longue tige enjuponnée de crépon rose. Le ministre s'assit sur le divan, alluma une cigarette, et tandis que, en face de lui, négligemment, j'enfourchais une chaise et croisais mes bras sur le rebord du dossier, il me dit avec gravité: J'ai beaucoup songé à toi ces jours-ci. Sans doute, il attendait une parole de remerciement, un geste amical, un mouvement d'intérêt ou de curiosité. Je demeurai impassible, m'efforçant de conserver cet air d'indifférence hautaine, presque insultante, avec lequel je m'étais bien promis d'accueillir les perfides avances de mon ami, car depuis le commencement de la soirée, je m'acharnais à me persuader qu'elles dussent être perfides, ces avances. Un seul là-bas, j'affectais de regarder le portrait de Monsieur Thiers qui, derrière Eugène, occupait la hauteur du panneau et s'obscurcissait de tous les reflets sombres, luttant sur sa surface trop vernie, hormis toutefois le toupet blanc, dont le surgissement pyriforme devait à lui seul l'expression unique et complète de la physionomie disparue. Assourdi par les tentures retombées, le bruit de la fête nous arrivait ainsi qu'un bourdonnement lointain. Le ministre, hochant la tête, reprit: Oui, j'ai beaucoup songé à toi. Eh bien, c'est difficile, c'est très difficile. De nouveau, il se tut, semblant réfléchir à des choses profondes. Je pris plaisir à prolonger le silence pour jouir de l'embarras où cette attitude muettement gouailleuse ne pouvait manquer de mettre mon ami. Ce cher protecteur, j'allais donc le voir une fois de plus devant moi, ridicule et démasqué, suppliant peut-être. Il restait calme, cependant, et ne paraissait pas s'inquiéter le moins du monde de la trop visible hostilité de mon allure. Tu ne me crois pas, fit-il d'une voix ferme et tranquille. Oui, je sens que tu ne me crois pas. Tu t'imagines que je ne songe qu'à te berner comme les autres, est-ce vrai? Eh bien, tu as tort, mon cher. Allons, surtout si tes entretiens t'ennuient, rien de plus facile que de le rompre. Et il fit mine de se lever. Je n'ai pas dit cela, protestai-je, en ramenant mon regard du toupet de Monsieur Thiers au froid visage d'Eugène. Je n'ai rien dit. Bon, écoute-moi alors. Veux-tu que nous parlions une bonne fois, en toute franchise, de notre situation respective? Swann, je t'écoute. Devant son assurance, je perdais peu à peu de la mienne. À l'inverse de ce que j'avais trop vaniteusement auguré, Eugène reconquérait toute son autorité sur moi. Oh, je le sentais qui m'échappait encore. Je le sentais à cette aisance du geste, à cette presque élégance des manières, à cette fermeté de la voix, à cette entière possession de soi qu'il ne montrait réellement que quand il méditait ses plus sinistres coups. Il avait alors une sorte d'impérieuse séduction, une force attractive à laquelle, même prévenu, il était difficile de résister. Je le connaissais pourtant, et souvent, pour mon malheur, j'avais subi les effets de ce charme maléfique qui ne devait plus m'être une surprise. Eh bien, toute ma combativité m'abandonna, mes haines se détendirent, et malgré moi, je me laissais aller à reprendre confiance, à si complètement oublier le passé que cet homme dont j'avais pénétré en ces obscurs coins l'âme inexorable et fétide, je me plus à le considérer encore comme un généreux ami, un héros de bonté, un sauveur. Et voici, oh, je voudrais pouvoir rendre l'accent de force, de crime, d'inconscience et de grâce qu'il mit dans ses paroles, ce qu'il me dit. Tu as vu d'assez près la vie politique pour savoir ce qu'il existe un degré de puissance où l'homme le plus infâme se trouve protégé contre lui-même par ses propres infamies, à plus forte raison contre les autres par celles des autres. Pour un homme d'État, il n'est qu'une chose irréparable, l'honnêteté. L'honnêteté est inerte et stérile. Elle ignore la mise en valeur des appétits et des ambitions, les seules énergies par quoi l'on fonde quelque chose de durable. La preuve, c'est cet imbécile de Favreau, le seul honnête homme du cabinet, et le seul aussi dont la carrière politique soit, de l'aveu général, totalement et à jamais perdue. C'est te dire, mon cher, que la campagne menée contre moi me laisse absolument indifférent. Sur un geste ambigu que rapidement j'esquissais, Je suis. Enfin, on parle de mon exécution, de ma chute prochaine, de gendarme, de Mazas. Mort au voleur, mais parfaitement. Mais de quoi ne parle-t-on pas? Et puis après, ça me fait rire, voilà tout. Et toi-même, sous prétexte que tu crois avoir été mêlé à quelques-unes de mes affaires, dont tu ne connais, soit dit en passant, que la contrepartie. Sous prétexte que tu détiens, du moins tu vas le criant partout, quelques vagues papiers, dont je me soucie, mon cher, comme de ça. Et sans s'interrompre, il me montra sa cigarette éteinte, qu'il écrasa ensuite dans un cendrier posé sur une petite table de laque près de lui. Toi-même, tu crois pouvoir disposer de moi par la terreur, me faire chanter, enfin, comme un banquier véreux. Mais tu es un enfant, raisonne un peu. Ma chute? Mais qui donc, veux-tu me le dire, oserait en ce moment assumer la responsabilité d'une telle folie? Qui donc ignore qu'elle entraînerait l'effondrement de trop de choses, de trop de gens auxquels on ne peut pas toucher plus qu'à moi, sous peine d'abdication, sous peine de mort? Car ce n'est pas moi seul qu'on renverserait. Ce n'est pas moi seul qu'on coifferait d'un bonnet de forçat. C'est tout le gouvernement, tout le parlement, toute la République, associée, quoi qu'ils fassent, à ce qu'ils appellent mes vénalités, mes concussions, mes crimes. Ah, ils croient me tenir, et c'est moi qui les tiens. Oh, sois tranquille, je les tiens fermes. Et il fit le geste de serrer une gorge imaginaire. L'expression de sa bouche, dont les coins tombèrent, devint hideuse, et sur le globe de ses yeux apparurent des vénules pourprées qui donnèrent à son regard une signification implacable de meurtre. Mais il se remit vite, alluma une autre cigarette et continua. Qu'on verse le cabinet, soit, et j'y aiderai. Nous sommes, du fait de cet honnête favreau engagé dans une série de questions inextricables, dont la solution logique est précisément qu'il ne peut pas y en avoir. Une crise ministérielle s'impose avec un programme tout neuf. Remarque, je te prie que je suis, ou du moins je parais étranger à ces difficultés. Ma responsabilité n'est qu'une fiction parlementaire. Dans les couloirs de la Chambre et une certaine partie de la presse, on me désolidarise adroitement de mes collègues. Donc ma situation personnelle reste nette, politiquement bien entendu. Mieux que cela, portée par des groupes dont j'ai su intéresser les meneurs à ma fortune, soutenue par la haute banque et les grandes compagnies, je deviens l'homme indispensable de la combinaison nouvelle. Je suis le président du conseil désigné de demain. Et c'est au moment où, de tous côtés, l'on annonce ma chute que j'atteins au sommet de ma carrière. Avoue que c'est comique, mon cher petit, et qui n'ont pas encore ma peau. Et Eugène était redevenu enjoué. Cette idée qu'il n'y eût point pour lui de place intermédiaire entre ces deux pôles, la présidence du conseil ou la prison de Mazas, s'émoustillait sa verve. Il se rapprocha de moi et, me tapotant les genoux comme il faisait dans ses moments de détente et de gaieté, il répéta: Ah oh non, mais avoue que c'est drôle! Très drôle, approuvai-je. Et moi, dans tout cela, qu'est-ce que je fais? Toi? Eh bien voilà, toi, mon petit, il faut t'en aller, disparaître 1 an, 2 ans, qu'est-ce que c'est que cela? Tu as besoin de te faire oublier. Et comme je me disposais à protester, mais sapristi, est-ce de ma faute? S'écria Eugène. Si tu as gâché stupidement toutes les positions admirables que je t'ai mises là dans la main. 1 an, 2 ans, c'est vite passé. Tu reviendras avec une virginité nouvelle et tout ce que tu voudras, je te le donnerai. D'ici là, rien, je ne puis rien, parole, je ne puis rien. Un reste de fureur grondait en moi. Mais ce fut d'une voix molle que je criai « Zut ! Zut ! Zut !» Eugène sourit, comprenant que ma résistance finissait dans ce dernier hoquet. « Allons, allons !» me dit-il d'un air bon enfant. « Fais pas ta mauvaise tête, écoute-moi. J'ai beaucoup réfléchi. Il faut t'en aller. Dans ton intérêt, pour ton avenir, je n'ai trouvé que cela, voyons. Es-tu, comment dirais-je, es-tu embryologiste ? » Il eut ma réponse dans le regard effaré que je lui jetais. « Non, tu n'es pas embryologiste, ah, fâcheux, très fâcheux. Mais pourquoi me demandes-tu cela ? Quelle est encore cette blague ? C'est que, en ce moment, je pourrais avoir des crédits considérables, oh, relativement, mais enfin, de gentils crédits, pour une mission scientifique, qu'en aurais-tu plaisir à te confier ? » Et sans me laisser le temps de répondre, en phrases courtes, drôles, accompagnées de gestes bouffons, il m'expliqua l'affaire. « Ben voilà, il s'agit d'aller aux Indes à Ceylan, je crois, pour y fouiller la mer dans les golfes, y étudier ce que les savants appellent la gelée pélagique, comprends-tu ? Et parmi les gastéropodes, les coraux, les hétéropodes, les madrépores, les siphonophores, les holothuries et les radiolaires, ce que je sais, retrouver la cellule primordiale. Écoute bien, l'initium protoplasmatique de la vie organisée, enfin, quelque chose dans ce genre. C'est charmant et, comme tu le vois, très simple. Ah, très simple en effet, murmurai-je machinalement. Oui, mais voilà, conclut ce véritable homme d'État, tu n'es pas embryologiste. Et il ajouta avec une bienveillante tristesse, c'est embêtant. Mon protecteur réfléchit quelques minutes. Moi, je me taisais, n'ayant pas eu le temps de me remettre de la stupeur où m'avait plongé cette proposition si imprévue. « Bon Dieu, reprit-il, il y aurait bien une autre mission, car nous avons beaucoup de missions actuellement, et on ne sait à quoi dépenser l'argent des contribuables. Ce serait, si j'ai bien compris, d'aller aux îles Fidji et dans la Tasmanie pour étudier les divers systèmes d'administration pénitentiaire qui y fonctionnent, et de leur application à notre état social. Bon, c'est moins gai. Je dois te prévenir que les crédits ne sont pas énormes. Ils sont encore anthropophages, là-bas, tu sais. Oh, tu crois que je blague, hein, que je te raconte une opérette? Mais, mon cher, toutes les missions sont dans ce goût-là. Oh. Eugène se mit à rire d'un rire malicieusement discret. Il y a bien encore la police secrète. On pourrait peut-être y trouver une bonne situation, qu'en dis-tu ? Dans les circonstances difficiles, mes facultés mentales s'activent, s'exaltent, mes énergies se décuplent et je suis doué d'un subit retournement d'idées, d'une promptitude de résolution qui m'étonne toujours et qui souvent m'ont bien servi. Bon, me criai-je. Après tout, je puis bien être embryologiste une fois dans ma vie. Qu'est-ce que je risque ? La science n'en mourra pas, elle en a vu d'autres, la science. Allez, c'est entendu, j'accepte la mission de Ceylan. Oh, tu as raison, bravo, applaudit le ministre. D'autant que l'embryologie, mon petit Darwin, Haeckel, Karl Vogel, au fond, tout ça, ça doit être une immense blague. Ah, mon gaillard, tu vas pas t'ennuyer là-bas. Ceylan, c'est merveilleux, y a, paraît-il, des femmes extraordinaires, des petites dentelières d'une beauté et d'un tempérament. Ah, c'est le paradis terrestre. Viens demain au ministère, nous terminerons l'affaire officiellement. En attendant, tu n'as pas besoin de crier ça par-dessus les toits à tout le monde. Parce que tu sais, je joue là une blague dangereuse pour moi et qui peut me coûter cher. Allons. Nous nous levâmes, et pendant que je rentrais dans les salons au bras du ministre, celui-ci me disait encore avec une ironie charmante « Tout de même, la cellule, si tu la retrouvais, est-ce qu'on sait? C'est Berthelot qui ferait un nez, crois-tu ?» Cette combinaison m'avait redonné un peu de courage et de gaieté. Non qu'elle me plût absolument. À ce brevet d'illustre embryologiste, j'eusse préféré une bonne recette générale, par exemple, ou un siège bien rembourré au Conseil d'État. Mais il faut se faire une raison. L'aventure n'était pas sans quelque amusement, du reste. De simple vagabond de la politique que j'étais la minute d'avant, on ne devient pas, par un coup de baguette ministérielle, le considérable savant qui allait violer les mystères aux sources mêmes de la vie, sans en éprouver quelque fierté mystificatrice et quelque comique orgueil. La soirée commençait dans la mélancolie, s'acheva dans la joie. J'abordai Madame G, qui, très animée, organisait l'amour et promenait l'adultère de groupe en groupe, de couple en couple. « Et cette adorable comtesse roumaine, lui demandai-je, est-ce qu'elle est toujours folle de moi ?»« Oh, toujours, mon cher !» Elle me prit le bras. Ses plumes étaient défrisées, ses fleurs fanées, ses dentelles aplaties. « Venez donc, dit-elle, elle flirte dans le petit salon de Guizot avec la princesse Onane. »« Comment, elle aussi ?»« Mais mon cher, répliqua cette grande politique, à son âge et avec sa nature de poète, il serait vraiment malheureux qu'elle n'ait pas touché à tout. »